Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Et le journal, c'est avec Marguerite Dumont. Bonjour Marguerite.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les syndicats mettent les bouchées doubles contre la réforme des retraites. Après le succès d'hier, 2 journées d'action la semaine prochaine, mardi et samedi. La facture va être plus salée, celle d'électricité plus 15% aujourd'hui, hausse limitée par le bouclier tarifaire. Et puis, 0 recrue pour le Paris Saint-Germain ce matin, échec du mercato parisien en raison de problèmes administratifs.
La fronde contre la réforme des retraites ne faiblit pas, elle s'accélère même.
Des rues noires de monde hier partout en France, entre 1 200 000 manifestants selon la police, 2 800 000 pour les syndicats. Dans les deux cas, c'est plus que le 19 janvier dernier. Le front syndical gonflé à bloc a décidé dans la foulée de mettre les bouchées doubles pour la semaine prochaine. 2 journées d'action prévues le 7 février, toujours le mardi, mais aussi le 11. C'est un samedi et c'est la nouveauté, Victor Joannin.
Après 2 journées réussies au-delà de leurs espérances, les syndicats en sont persuadés, la clé du succès réside dans leur unité. C'est pourquoi cette double date est un compromis entre la CGT, qui ne jure traditionnellement que par la grève en semaine, et la CFDT, qui avait proposé très tôt de se mobiliser le samedi pour voir défiler les familles et les petits salaires. Cette stratégie convient également au secteur fer de lance, les raffineurs, les dockers, les énergéticiens et les cheminots, qui avaient déjà coché la date de mardi prochain. 2 jours de mobilisation en une semaine, les opposants à la réforme pourraient défiler le samedi plutôt que le mardi pour économiser un jour de grève, mais le risque de cortège moins massif mardi prochain est assumé. Il faudra faire le bilan à la fin de la semaine, prévient d'emblée le numéro 1 d'un syndicat qui commence déjà à réfléchir à comment faire vivre le mouvement pendant la suite des vacances. On sera inventif, promet-il.
Et que pensent les manifestants de ces prochaines journées de mobilisation, ces 2 journées de mobilisation à Nîmes et à Paris? Kevin Gasser et Estelle Henry leur ont posé la question pour RMC.
La semaine prochaine, Donna a choisi, ce sera manifestation mardi et samedi.
Tant pis, j'y perds des deniers.
Mais c'est une concession nécessaire pour cette auxiliaire puéricultrice de 61 ans qui ne veut pas travailler 6 mois supplémentaires avec la réforme.
Je préfère les perdre maintenant, tant pis, j'en suis déjà à 2 grèves là. Je mangerai moins, mais je préfère manger plus tard.
Mais se mobiliser à nouveau mardi prochain a un coût pour Alissa et Alexandra.
On ne peut pas se permettre de tout le temps arrêter de travailler parce que bon, au vu de l'inflation, etc., maintenant pour se nourrir, il faut quand même avoir un salaire.
Les deux amis iront donc manifester samedi.
S'ils font tous les samedis, on viendra quoi.
Ludovic aussi a un faible pour le samedi. Il posait jusqu'alors des jours de congé pour manifester. Une stratégie limitée, explique ce salarié du secteur privé.
Avec un employeur dans le privé où les instances représentatives du personnel n'ont pas autant de poids que dans la fonction publique, on va dire, il est difficile d'expliquer à son employeur qu'on va s'absenter pour faire grève ou manifestation.
Pour d'autres manifestants, la mobilisation en semaine reste la meilleure façon de peser sur l'économie et donc de faire reculer le gouvernement.
Le gouvernement d'ailleurs qui appelle les syndicats à respecter les Français qui prennent des vacances bien méritées. Je cite Gabriel Attal, le ministre des Comptes Publics, hier. Réaction aussi d'Elisabeth Borne, la première ministre, a juste admis dans un tweet que sa réforme suscitait des doutes tout en assurant vouloir maintenir son cap. On va décrypter la stratégie de l'exécutif avec le chef du service politique d'RMC. Bonjour Jérémy Trottin. Plus la mobilisation est massive, plus le gouvernement se montre inflexible finalement.
Oui, et le mot d'ordre hier était en effet « on tient bon, cela ne change rien ». Voilà pour le discours officiel, mais en réalité cette 2e journée de grève interroge. Il faut regarder qui était dans ces manifestations, regarder la sociologie et y répondre, explique un conseiller qui constate que malgré le taux de grévistes à la baisse, il y avait encore plus de monde dans les rues. Alors que faire maintenant? Certains ministres encouragent Elisabeth Borne à faire quelques petites concessions demain soir lors d'une émission de télévision à laquelle doit participer la Première Ministre. Les calculettes chauffent d'ailleurs en ce moment à Bercy pour voir combien coûteraient certaines mesures en faveur des femmes, des jeunes ou encore des seniors. Hors de question en revanche de céder aux revendications des syndicats et de revenir sur les 64 ans. On assume notre réforme et on va compter les jours jusqu'à son adoption, m'expliquait hier soir un marcheur chevronné.
Merci beaucoup Jérémy Trottin, chef du service politique d'RMC. L'exécutif a d'autres batailles à mener aussi. Dès ce matin, elle concerne son projet de loi sur l'immigration présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Jugé trop répressif pour la gauche, trop laxiste pour la droite, le texte prévoit de faciliter les expulsions des étrangers délinquants et pour le volet intégration, la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Nous sommes le 1er février et plus de 20 millions de foyers sont concernés par la hausse des prix de l'électricité. Les tarifs réglementés prennent 15%, mais ça aurait pu être pire, nous explique Nicolas Goldberg, spécialiste des questions d'énergie.
sans bouclier tarifaire, on serait à x2 en prix de l'électricité par rapport à l'année dernière. Donc, il fallait s'attendre à une hausse et le gouvernement avait déjà annoncé que cette hausse serait limitée à plus 15%. Donc, effectivement, ce n'est pas une surprise. Par contre, il faut bien voir jusqu'où seraient montés ces tarifs si l'État n'avait pas réagi avec le bouclier tarifaire.
En voiture, prévoyez aussi 5% d'augmentation au péage. Par contre, hausse favorable pour votre épargne. Le taux du livret A passe de 2 à 3%. Et puis, un supermarché lance un panier anti-inflation sans attendre le gouvernement qui étudie en ce moment la mesure. L'enseigne Système U, quatrième distributeur en France, va vendre un panier de 150 produits à prix coûtant. Il est 7h06 sur RMC. Deux interpellations une semaine après la disparition de Siem, une lycéenne dans le Gard. Selon les informations d'RMC, un homme de son entourage et son ex-compagne ont été hier placés en garde à vue. Pierre Bourgès, l'homme connu de la justice, était dans le collimateur des enquêteurs depuis plusieurs jours.
Oui, le suspect avait déjà été brièvement interrogé au tout début de l'enquête. Une simple audition dont il était ressorti libre. Mais depuis, les soupçons des enquêteurs se sont renforcés autour de cet homme d'une quarantaine d'années, connu comme un délinquant local chevronné et qui a déjà fait de la prison. Les gendarmes l'ont interpellé hier en tout début d'après-midi pour cette fois-ci l'interroger sous le régime de la garde à vue. Son lien avec la lycéenne disparue est au cœur des investigations. Quelle était la nature de leur relation ? Est-il le dernier à avoir vu Siem la nuit de la disparition, sachant qu'une deuxième personne a été placée en garde à vue. Il s'agit de l'ex-compagne du suspect, interrogée quant à elle sur l'emploi du temps et les relations de son ancien compagnon.
Un procès requis contre François Bayrou et 12 autres membres du Modem pour complicité de détournement de fonds publics. Ils sont soupçonnés d'avoir utilisé des fonds européens pour embaucher des assistants parlementaires et les avoir fait travailler pour le parti. C'était cette affaire qui, en 2017, avait poussé François Bayrou à la démission du gouvernement.
François Bayrou, qui d'ailleurs sera mon invité à 8h30 tout à l'heure sur RMC et BFM TV. Sa première réaction donc après cette annonce du parquet.
On en vient aux montagnes russes du mercato en football. Au sommet, l'OM qui signe Vitinha, le jeune buteur portugais, est arrivé à Marseille. Un transfert un peu plus de 30 millions d'euros, le plus élevé de l'histoire du club. Et puis il y a au plus bas, le Paris Saint-Germain, Fabrice Hawkins. Les Parisiens n'ont tout simplement pas réussi à recruter.
Ça ressemble à une mauvaise blague, mais le milieu de terrain de Chelsea, Hakim Ziyech, qui a passé toute la journée d'hier à Paris, pourrait ne pas signer à cause d'un problème administratif. Le PSG rejette la faute sur Chelsea. Les Anglais accusés d'avoir envoyé les bons documents trop tard. Conséquence, le contrat du Marocain n'a pas pu être transmis à la Ligue avant 23 heures. Même scénario pour le jeune parisien Ismaël Garbi, qui n'a pas pu signer à Nice. Grosse colère des dirigeants parisiens et niçois. Ils vont formuler deux recours à la Ligue. S'ils sont rejetés, Ismaël Garbi et Hakim Ziyech vont rester dans leur club. Un camouflet pour Paris qui n'a pas réussi à recruter Milan Skriniar. Le défenseur était espéré par l'entraîneur du Paris Saint-Germain, mais l'Inter Milan n'a pas voulu s'en séparer. Comme l'été dernier, le mercato a un goût amer.
Le Paris Saint-Germain qui se déplace à Montpellier ce soir, coup d'envoi 21h. Et les 10 matchs de la 21e journée de Ligue 1 sont évidemment à suivre dès 19h sur RMC.
C'était le journal de Marguerite Dumont, il est 7h09.
RMC s'engage pour vous.
RMC à vos côtés avec Élise Dangean ce matin. Bonjour Élise. Élise, vous nous parlez de l'aide à la conversion au bioéthanol. Elle est censée être versée, mais elle est versée avec beaucoup de retard en Ile-de-France.
Le bioéthanol, c'est cet agrocarburant plus écologique, mais surtout moins cher à la pompe. Et dans ce contexte de flambée des prix, il séduit de plus en plus de Français qui font le choix de changer leur voiture ou bien de convertir la leur grâce à un boîtier installé dans le moteur. Plusieurs régions ont mis en place des aides à l'achat et à la pose de ces kits de conversion, mais les paiements traînent en Ile-de-France. C'est Jean-Yves qui nous a alerté via l'adresse RMC pour vous à rmc.fr. En septembre dernier, ce jeune retraité saute le pas du bioéthanol et fait sa demande d'aide auprès de la région. Depuis, il ne parvient pas à obtenir les 500 euros auxquels il est pourtant bien éligible.
J'ai l'impression de jouer au yo-yo avec le Conseil régional d'Île-de-France parce qu'une fois ma subvention est en cours de paiement, quand je relance, elle est repartie en transmission au service compétent et ainsi de suite depuis des mois, ça change sans arrêt. Donc j'en suis revenu un peu grosse déception.
Jean-Yves a dû débourser au total 1000 euros pour l'installation de ce boîtier bioéthanol. Cette aide doit donc couvrir la moitié de son investissement, mais pour l'heure, l'argent n'arrive pas.
Et il n'est pas le seul dans cette situation.
Oui, il nous a suffi d'une rapide recherche pour s'apercevoir qu'ils étaient nombreux à attendre leur aide à la conversion. Céline, par exemple, a fait sa demande fin septembre. On lui annonçait alors un délai de 6 à 8 semaines.
J'ai saisi mon dossier et dans la journée ou le lendemain, j'avais la fameuse lettre qui disait « Vous êtes éligible ». Donc là-dessus, il n'y a pas de souci, mais c'est après, ils m'ont redemandé un document qui, déjà que j'avais déjà donné, c'est un sketch en fait leur truc. Enfin, moi, j'ai pas compris. Et surtout, il n'y a pas d'excuse. Je trouve ça un peu gonflé, quoi. C'est que vraiment, quand on est en retard, bah, au bout d'un moment, on s'excuse, quoi. Enfin, là, j'attends plus d'excuses, mais j'attends juste mon virement, mais c'est tout, quoi.
Alors, des excuses, la région Île-de-France a fini par en formuler sur son site internet où elle a ajouté à la mi-janvier un encart dédié au délai de versement de cette aide.
Et laisse-moi deviner, elle a dit qu'elle était débordée peut-être.
Dans le mille, le délai moyen de versement est de 3 mois à compter de la date de dépôt de la demande, écrit-elle, mais il peut être un peu plus long en raison du succès du dispositif. Un peu, c'est un euphémisme, vous l'aurez compris. Je rappelle que nos auditeurs attendent depuis 3 à 4 mois. Auprès de nous, la région reconnaît ses lenteurs et explique aussi qu'elle a dû renforcer ses contrôles pour faire face aux tentatives croissantes de fraude sur ce dispositif. Sauf que les 2 dossiers de nos auditeurs étaient déjà validés. En tout cas, il n'a fallu que 24 heures après notre première sollicitation pour que les paiements soient effectués. C'était vendredi dernier. Jean-Yves et Céline devraient donc recevoir leur aide à la conversion cette semaine.
Je suis enchantée pour Jean-Yves et Céline, mais je trouve ça quand même toujours sidérant de penser que s'ils appellent eux, ils obtiennent rien. Si vous appelez vous, c'est génial, hein, mais on appelle en disant « Allô, c'est RMC ». Dans les 24 heures, comme par hasard, là, ils sont un peu moins débordés, quoi.
Ça va plus vite.
Voilà. Heureusement que vous êtes là. Vous connaissez donc le chemin. RMC pour vous, @rmc.fr. Il est 7h11.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Il dénonce l'impasse de la vengeance, une impasse qu'il a déjà empruntée lui-même. Dans un instant, le témoin du jour nous racontera comment, en 2011, il a tenté de venger son petit frère mort dans une rixe. 8 ans de prison plus tard, Adama Camara s'est rangé et il témoigne sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h14 et vous êtes bien sur RMC.
Le témoin RMC.
Le témoin du jour, c'est vous, Adama Camara. Bonjour.
Bonjour.
Très heureuse de vous recevoir ce matin parce que votre témoignage, il est très puissant. Vous allez nous parler des rixes et vous les avez vécues. Aujourd'hui s'ouvre le procès des agresseurs de Youri. C'est ce jeune Parisien gravement blessé il y a 2 ans dans une rixe dans le 15e arrondissement. Un affrontement entre bandes rivales qui avait été filmé et qui avait ému la France entière. Alors cette violence, elle existe depuis longtemps. Elle vous a directement touché. Vous, Adama, en 2011, il y a 12 ans, lorsque votre frère cadet Sada est tué dans une rixe. 3 ans plus tard, vous décidez de le venger vous-même et vous prenez donc cette décision qui va bouleverser votre vie. Est-ce que vous pouvez nous raconter ?
Ben, mon frère, il s'est fait tuer un soir à la gare de Garges-lès-Gonesse, coup de couteau, par des anciens amis sur une ancienne bagarre qu'ils ont eue. C'est ni pour une histoire de trafic de stupéfiants, ni pour une histoire de filles. Malheureusement, ben nous, on l'apprend à 3h du matin. On nous dit que ben, notre frère est mort. Donc on arrive sur place et notre dernière vision qu'on a, c'est ben, un drap blanc par terre avec un dispositif de police autour. C'est des choses qui nous frappent et qu'on connaît pas. Donc à partir de ce moment-là, on a ce premier, comme je le dis souvent, ce premier volet, c'est-à-dire la tristesse.
Le choc,
beaucoup. C'est une famille qui est détruite. Et par la suite, on se dit, mais c'est à cause d'un tel. C'est là que le poison vraiment de la vengeance commence à mûrir en nous, parce qu'on se dit, c'est un tel qui a tué notre frère. C'est à cause de cette personne-là que notre famille, elle est détruite, qu'on n'arrive pas à aller de l'avant. Et en pensant que l'antidote de ce poison, c'est la vengeance, j'ai décidé un jour, tout bêtement, de me venger. Parce que je me suis dit, lorsque je vais venger mon frère, je vais me sentir mieux.
Et ma mère
va moins pleurer. Ma mère va moins pleurer, c'est ça. Donc, je me procure une arme. Et
vous dites d'ailleurs, vous dites dans votre livre, hein, puisque vous publiez un livre qui s'appelle numéro 55.852, c'est votre numéro d'écrou. Vous dites, c'est plus facile de se procurer une arme que quoi que ce soit d'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, se procurer une arme, c'est rien.
Malheureusement, c'est plus facile de se procurer une arme qu'avoir un CDI. Ce que je dis souvent, et c'est ça qui est aussi triste. Et voilà, donc par la suite, je décide de venger mon frère pour, en espérant me sentir mieux, chose qui est totalement fausse, parce que dès le jour même, hein, lorsque je tire sur ces personnes-là, j'ai même pas un sentiment de satisfaction. J'ai même pas un sentiment de satisfaction, et je me dis, mais en fait, c'est une fausse idée qu'on se fait sur la vengeance, parce que beaucoup, même quand un jeune se fait agresser ou une personne décède, on pense que la vengeance, œil pour œil, dent pour dent, ça va fonctionner dans notre cœur, alors que non.
Non, et puis évidemment vous le payez de 8 années de prison.
C'est
et
ça.
Aujourd'hui, vous témoignez non seulement dans ce livre, mais en allant aussi dans les lycées, dans les collèges, de plus en plus jeunes, dites-vous. On en parle souvent sur notre antenne de cette question des rixes, de la question de la violence. Et vous, vous l'avez constaté, cette violence, elle touche les jeunes de plus en plus jeunes. Et vous allez les voir et vous allez leur dire, mais en fait, la vengeance, ça ne fonctionne pas, ça n'est pas la solution. Quel âge ils ont, ceux à qui vous êtes obligés de dire ça ?
Lorsque j'ai commencé à 3-4 ans, je m'adressais à des collégiens de 3e et des lycéens. Aujourd'hui, je m'adresse à des classes de 5e. Et j'ai même peur que l'année prochaine, je m'adresse à des classes de 6e, parce que dès la 5e aujourd'hui, ils connaissent ce phénomène de RICS. Ils n'ont pas froid aux yeux, limite, si demain ils sont confrontés à une situation, parce que moi j'essaye de les mettre en mise en situation quand je suis dans les établissements.
Ça veut dire quoi, mise en situation? Vous leur dites, voilà, si ça s'était, si ça s'était passé, quelle doit être pour toi la porte de sortie? Comment tu peux sortir de ça?
Bah, la mise en situation, je commence à déjà leur poser la question de quoi ça paraît une RICS. Donc on va me parler soit d'un regard ou soit des réseaux sociaux. Et de là, on construit une histoire avec eux. Donc je leur dis, on se regarde mal, j'ai votre âge. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ben, je te dis, qu'est-ce que tu me regardes? C'est leur terme. Ben, moi, je leur réponds ben, de la même manière. Et l'escalade, elle commence. Jusqu'à on arrive à cette bagarre, plusieurs personnes sur une personne, un décès, qu'est-ce qui se passe? Et donc eux, ils pensent ben, à partir de l'âge que lesquels que je parle
pour
avec les
regard,
jeunes,
pour un regard.
Donc quand on arrive jusqu'à ce fameux procès au tribunal, et quand je leur dis ben après plus de 48 heures de garde à vue, le juge décide de vous mettre en prison, vous allez en prison ou pas? Ces jeunes-là me disent non, c'est mes parents qui vont en prison. Et moi je leur dis ben à partir de 13 ans, on est responsable pénalement, on peut aller en prison.
En fait, ils n'ont pas peur de la prison.
C'est pas qu'ils n'ont pas peur, c'est qu'ils n'ont même pas conscience à partir de quel âge ils peuvent aller en prison. Moi, je pense qu'il y a une énorme éducation sur la justice à faire dans les établissements pour parler vraiment aux jeunes des conséquences de ce qu'ils risquent. Parce qu'on a l'habitude d'entendre au quartier ou ailleurs, t'es mineur, tu risques rien. C'est pas vrai.
C'est pas vrai. Et vous l'avez vécu dans votre chair, puisque vous vous êtes retrouvé en prison. Vous dites aussi que les réseaux sociaux véhiculent une image presque sympa de la prison, quoi.
C'est le constat amer que je fais lorsque je travaille avec les jeunes aujourd'hui dans les établissements. Quand je parle des réseaux sociaux, surtout de TikTok, ben on voit beaucoup de tutos sur des détenus en prison qui font à manger, qui font du sport. Et quand je leur pose la question, les jeunes me disent souvent, ben ça a l'air d'être facile la prison. C'est rien, t'as un téléphone, t'es tranquille.
C'était quoi la prison pour vous? Pour vous, Adama Kamara?
Ben, la prison, c'est on est enfermé 22 heures sur 24, on est coupé du monde, coupé de la famille. On a beau avoir un téléphone, mais on est limité. On est coupé du monde, on est enfermé, on peut avoir un téléphone. C'est pas ça qui va faire qu'on va être bien. Une vidéo, ça dure une minute. Ça reflète pas l'univers carcéral, vraiment. Entre les violences, les parloirs, les fouilles, l'humiliation entre guillemets, parce que les gens ils l'oublient que bah, à chaque fouille, à chaque parloir, ben bah, on est fouillé intégralement.
Adama Kamara, quand on voit les procès qui ont lieu aujourd'hui, on se rend compte que la plupart du temps la question c'est comment sortir de ces spirales de vengeance. Comment sortir? Qu'est-ce que, à part la menace de la prison, à part l'inquiétude, comment réussir à arrêter ces spirales de un regard, œil pour œil, dent pour dent?
Pour moi, il faut plus de prévention et moins de répression. La répression, c'est bien. Lorsque, souvent, on entend, hein, quand un jeune décède, on est directement dans la répression. Mais qu'est-ce qu'on fait avant que ce jeune décède, avant que ces jeunes tombent dans les RICS? Moi, j'ai l'impression qu'il faut même commencer à sensibiliser les élémentaires avant qu'ils arrivent dans la cour des grands, c'est-à-dire avant qu'ils arrivent au collège, déjà les sensibiliser, déjà sur les réseaux sociaux, parce que c'est un poison pour moi chez la jeunesse, et de leur parler des phénomènes de RICS qui peuvent arriver.
Merci beaucoup. En tout cas, Adama Kamara, vous ne cessez de témoigner justement et de faire cette prévention, à la fois dans les lycées, dans ce studio et dans votre livre, je le disais, numéro 55-852. Adama Kamara, merci à vous en tout
merci
cas de ce témoignage. Rappelle qu'aujourd'hui, le procès donc des agresseurs de Youri sourd avec 4 mineurs qui risquent de la prison, 4 mineurs qui étaient impliqués dans cette RICS. Il est 7h21.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans 20 minutes, moins de grévistes, mais plus de manifestants. Comment l'expliquer? Je reçois la politologue Anne-Charlène Bézina et puis le responsable CGT, Benjamin Amar. On va évoquer avec vous, au 32-16, les suites du mouvement et ces deux journées de mobilisation, mardi et samedi prochain. Rendez-vous à 7h40 et puis rendez-vous au 32-16. D'ici là, le chiffre d'affaires et Arnaud Demange qui pirate le 32-16.
Apolline Matin.
L'indiscret RMC.
L'indiscret RMC, les indiscrets du service politique. Bonjour Jérémy Trottin.
Bonjour Apolline.
Jérémy, on s'intéresse ce matin à ces bruits de couloir au cœur du pouvoir.
Oui, ces petits bruits sur une dissolution ou même un remaniement, ce qui monte. Emmanuel Macron pourrait être tenté donc de dissoudre l'Assemblée. Mais pourquoi maintenant? Pour visiblement mettre la pression sur une partie de la majorité pas très à l'aise avec la réforme des retraites et sur les Républicains, disent les uns. Mais attention aux effets contre-productifs, préviennent les autres.
d'autres, la pression sur les députés pourrait tout simplement les amener à être plus présents en campagne dans leur circonscription qu'à Paris. Dissoudre aujourd'hui, ce serait tout simplement suicidaire, explique un parlementaire. C'est encore un truc imaginé par des planqués dans les ministères. Il faudrait mieux de la boucler. Voilà pour l'ambiance au sein de la majorité.
Et c'est pas la seule rumeur qui circule.
Oui, un remaniement massif après la réforme des retraites est déjà évoqué en coulisses. Il y a des discussions, affirme un cadre de Renaissance, qui explique qu'un remaniement aurait plus de sens politique qu'une dissolution. Une parlementaire influente y voit l'occasion d'achever définitivement le premier quinquennat et d'ouvrir une nouvelle page une fois la réforme des retraites votée. L'occasion aussi pour Emmanuel Macron de rebâtir une nouvelle équipe avec des ministres plus politiques. Il trouve ses ministres trop faibles. Je vous assure qu'il est vraiment très agacé et qu'il va vraiment le faire, confier un député.
Jérémy Trottin, chef du service politique d'RMC.
RMC, Apolline Matin. RMC, Apolline Matin.
Il est 7h24 et c'est l'heure de l'économie.
Le chiffre d'affaires.
Emmanuel, c'est le moment de mettre de l'argent de côté, quand on peut.
Oui, quand on peut, parce que c'est vrai que l'épargne populaire retrouve des couleurs. Le taux du livret A, d'abord, passe aujourd'hui de 2 à 3%. Il était encore à 0,5% il y a un an. Il n'avait jamais été aussi bas. C'est la revalorisation la plus rapide de l'histoire. Songez que le montant moyen sur un livret A, c'est 5 000 euros. Et ben, il y a un an, ça vous rapportait 25 euros par an. À partir d'aujourd'hui, ça va vous rapporter 150 euros par an. Cette revalorisation, elle concerne aussi le livret de développement durable et elle doit beaucoup, évidemment, à l'inflation, puisque elle entre dans le calcul du taux du livret A, hausse dont devrait bénéficier tout de même plus de 55 millions de Français.
Et le meilleur placement, ça reste le livret d'épargne populaire.
Alors oui, effectivement, placement trop méconnu. Il passe non plus à 4,6, mais à 6,1%. C'est le double du livret A. Mais alors attention, il n'est pas accessible pour tout le monde. Il faut avoir des ressources maximales de 1 800 euros par mois pour un célibataire. Et le plafond est assez bas, 7 700 euros. Mais si vous allez jusqu'au plafond, eh ben, ça peut vous rapporter quand même 470 euros sur une année. Avec une inflation qui va ralentir, ça vaut quand même le coup.
Et ça relance le match entre livret A et assurance vie.
Ah oui, c'est les deux placements préférés des Français.
Match. Ah, c'est un commentaire match incroyable. Sportif, Emmanuel.
Alors, je vous fais
le classico de la banque.
Alors, je vous fais le match concernant la liquidité, c'est-à-dire la possibilité de retirer son argent facilement. Léger avantage au livret A, c'est comme un compte en banque. Sur la sécurité, là encore, léger avantage au livret A, il est garanti par l'État. Sur la fiscalité, il n'y a aucune fiscalité sur le livret A. Il y a quand même les prélèvements sociaux sur l'assurance vie. En revanche, sur la transmission, avantage à l'assurance vie. Sur la souplesse, avantage à l'assurance vie parce qu'il n'y a pas de plafond limité pour déposer son argent. Et alors, la rémunération, si on regarde ce que ça rapporte, finalement, à l'instant T, bah oui, avantage livret A, 3%. 2% seulement à l'assurance vie, mais n'oubliez jamais qu'un placement, ça se juge sur le long terme. Sur 30 ans, c'est simple. Le livret A vous a rapporté 99%, l'assurance vie 238%, et encore sur de l'assurance vie pas risqué. Donc en fait, il faut arrêter d'opposer ces placements. Ils sont plus complémentaires que concurrents.
Arnaud de Manche, 7h27.
RMC, Apolline Matin.
Attention. Demanche pirate le 32-16.
Attention,
Arnaud Demanche est avec nous. Et le sujet qui fait parler Arnaud au standard, c'est la sortie au cinéma du dernier Astérix.
Eh oui, c'est là.
Ouais, toujours démarrer la journée avec un chef-d'œuvre musical. Donc aujourd'hui, Astérix, 65 millions d'euros de budget. C'est un film qui a coûté 3 réformes des retraites. Et aujourd'hui, tous les Français vont pouvoir le découvrir. Tous ? Non ! Dans un petit palais à l'Élysée, un Emmanuel Macron n'a pas résisté à l'envie de nous dire « Si c'est pour passer 2 heures à regarder des Gaulois casse-couilles qui coûtent un pognon de dingue, ça va, hein, je me suis déjà enfilé les cortèges syndicaux hier !» Gaël Perdriau, le maire de Saint-Étienne, est furieux. C'est du plagiat. Filmer des moustachus torse nus avec des Asiatiques musclés, c'est moi qui ai filmé ça le premier. Michel Houellebecq nous dit «
Si vous aimez les films qui mettent la Gaule en valeur, je peux vous proposer mon dernier court-métrage hollandais. Et Madame de Malherbe, j'arrive à être performante sans potion magique, je vous enverrai un DVD.
Non, sans raison.
Je trouve qu'on reste dans le sujet quand même, parce que Houellebecq, il a quand même la tête du gars qui s'est pris une baffe par Obélix.
Madame, vous le dites.
Et enfin, Guillaume Canet nous a laissé un message pour nous conseiller d'aller voir son film où il y a Guillaume Canet, Gilles Lelouch, Lelouch, Marion Cotillard, Jonathan Cohen, Vincent Cassel, Jérôme Commander, Zlatan, McFly et Carlito, Aurel San, Bernard Minet, Bernadette Chirac, Emmanuel Lechypre, Bernard Diomède, Jonathan Daval, Guy Georges, Charles Magnin, Géraldine Demorix, Arnaud Demange, Tataillet et bien sûr Apolline de Malherbe dans le rôle de la princesse Pasiphae d'Égypte qui veut devenir journaliste à Alexandrie, qui interview Jules César. Jules César, est-ce que vous avez un message à adresser à Abra Raccourcix? Et Vincent Cassel qui répond, mais pas du tout Apolline, qui vient de me chercher. Elle est admirable, un César pour Apolline. À tout à l'heure.
Oui. Oh, je prends. C'était Arnaud Demange. Il est 7h29, on se retrouve tout à l'heure.
À 8h.
Vous êtes bien sur RMC, le journal de 7h30 avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. C'est l'autre dossier brûlant pour le gouvernement, le projet de loi sur l'immigration ce matin en Conseil des ministres. Texte qui ne convient ni à la gauche ni à la droite. Vous entendrez l'examen sur la réforme des retraites qui tourne à la foire d'empoigne en commission à l'Assemblée. Les syndicats annoncent deux nouvelles journées de mobilisation la semaine prochaine. Et Marseille qui casse sa tirelire en recrutant l'attaquant portugais pour 30 millions d'euros.
Le gouvernement s'attaque à un autre dossier brûlant ce matin.
En mettant sur la table, du Conseil des ministres, son projet de loi sur l'immigration qui ne plaît ni à la gauche ni à la droite. Ça annonce des débats encore animés sur ce texte qui prévoit de régulariser les sans-papiers travaillant dans les métiers sous tension et en France depuis au moins 3 ans, comme ici à Grenoble avec Vincent Chevalier pour RMC.
Arrivé en France il y a 5 ans depuis la Guinée, Mustapha a rapidement cherché du travail et rapidement trouvé.
C'est devenu un commis
de cuisine à 23 ans, un travail qu'il apprécie.
Ça me plaît bien de travailler avec les amis, de bouger.
Mais il sait qu'il peut tout perdre en cas de contrôle, une crainte permanente, une frustration aussi. Ses 3 demandes de régularisation n'ont pas abouti.
J'ai un contrat CDI aujourd'hui avec plusieurs fils de pays. Donc je ne sais pas pourquoi. Chaque fois, ça marche pas, ça prend le temps.
Alors ce projet de loi est très attendu par Mustapha, mais aussi par son patron.
On l'attend pas avec impatience, on est là, on est en train de piaffer.
Pour Pierre Pavy, faire appel aux travailleurs sans papier est devenu indispensable pour la survie de certains établissements.
250 000 postes à pourvoir dans la restauration et l'hôtellerie en France, personne ne se présente.
Une mesure notamment critiquée par des syndicats qui dénoncent l'utilisation d'une main d'œuvre à bas coût. Faux, répond le restaurateur.
Ils ont les mêmes payes que l'ouvrier français, mais ces gens payent des impôts, sont cotisants, mais ne peuvent pas avoir les droits requis d'un travailleur.
Ce titre de séjour permettrait de régulariser de plein droit les travailleurs pendant 1 an.
Et cette loi immigration s'ajoute à la réforme des retraites pour le gouvernement, réforme qui a encore fait descendre énormément de monde dans la rue hier, entre 1,2 et 2,8 millions de manifestants selon police et syndicats, mais quel que soit le chiffre, c'est plus que pour la première journée de mobilisation du 19 janvier, et les syndicats en annoncent une troisième et une quatrième le mardi 7 et le samedi 11, une journée en semaine, une autre le week-end, pour mobiliser plus largement, nous dit Céline Verzelletti de la CGT.
Est-ce qu'il y aura plus de monde le samedi ou en semaine? Ça, je sais pas, parce que parfois, on a pu voir que c'était pas forcément le cas qu'il y ait beaucoup plus de monde le samedi. Par contre, ce qu'on peut constater, c'est que ce sont d'autres personnes qui pourront participer à cette mobilisation et à cette contestation. Et je pense que c'est important parce qu'il y a énormément de personnes qui veulent activement agir.
Le gouvernement inflexible appelle les syndicats à respecter les vacances des Français et renvoie au débat parlementaire qui a commencé depuis lundi en commission à l'Assemblée dans un chaos pas possible, nous dit Sébastien Krebs du service politique RMC.
La rue semble avoir galvanisé la NUPES en commission. Insoumis et écologistes assument désormais sans complexe de faire traîner les débats, certains en listant le nombre de manifestants.
Je salue quand même les 1800 qu'il y avait à Sarlat aujourd'hui à 15h. Et voilà, c'est bien.
Moi j'en profite aussi pour saluer les 45 000 manifestants qui étaient à Lyon aujourd'hui. Franchement, les Français nous regardent et là c'est pas bien joyeux, je vous le dis. Hein.
La présidente s'agace, ça n'est pas le sujet, mais Sandrine Rousseau assume.
Je pense que les Français et Françaises comprennent très bien pourquoi nous faisons obstruction à un projet de loi.
Tollé dans la salle, le coup de gueule vient au RN de Christophe Benz.
On tourne en rond depuis maintenant plus de 5 heures. De la part de la NUPES, ce n'est franchement pas sérieux. Je propose qu'on arrête, ou plutôt qu'ils arrêtent.
S'il vous plaît, non mais pas de provocation, s'il vous plaît. Émanant de la NUPES, pour le coup, j'ai entendu jusqu'ici, retourne à la buvette. Quelle image vous renvoyez devant les Français, la représentation nationale? C'est une honte! C'est une honte!
Il ne reste plus qu'une journée de discussion en commission et l'article sur les 64 ans n'a toujours pas été abordé.
C'est confirmé ce matin, c'est confirmé. L'État vole au secours d'Orpea via son bras financier, la Caisse des dépôts, qui va prendre le contrôle du gestionnaire de maison de retraite en plein scandale et qui croulait sous 9,5 milliards de dettes. La situation ne s'arrange pas, pas du tout. Même la Fondation Abbé Pierre nous apprend ce matin que le nombre de sans-abri a doublé en 10 ans. Romain Houck, vous avez lu ce matin pour RMC le dernier rapport de la Fondation sur le mal-logement.
Oui, la Fondation Abbé Pierre qui estime à 330 000 le nombre de personnes aujourd'hui sans domicile en France. Dans le détail, ce sont 200 000 personnes en hébergement d'urgence, 110 000 autres en centre d'accueil pour demandeurs d'asile et environ 27 000 personnes sans abri qui dorment dans la rue, dans le métro, dans une voiture ou sous une tente. Et le gouvernement ne fait rien ou presque pour y remédier. C'est ce que déplore ce matin la Fondation qui parle de 2022 comme d'une année blanche dans la lutte contre le mal-logement. Pire, l'État mène des politiques contre les pauvres, assène l'association, citant notamment la réforme de l'assurance chômage qui entre en vigueur aujourd'hui, ou la loi anti-squatteur, un rapport au vitriol donc présenté aujourd'hui à Paris devant le ministre du Logement, Olivier Klein, qui doit en profiter pour présenter un plan du gouvernement visant à faciliter le retour au logement des personnes sans abri.
Et le directeur de la Fondation Abbé Pierre sera dans ce studio en direct à 8h10 tout à l'heure.
On a ce matin les premiers mots de Vitinha, la dernière recrue de Marseille en football. Écoutez, c'est très court.
Allez l'OM !
Voilà, il connaît déjà le refrain. Marseille a déboursé 30 millions d'euros pour recruter l'attaquant portugais Vitinha, donc de Braga. C'est le plus gros transfert de l'histoire de l'OM pour un joueur pas très connu, faut le dire, mais accueilli quand même en grande pompe hier soir à l'aéroport de Marignane. Florent Germain pour RMC.
Oui, l'été dernier, c'est le Chilien Alexis Sanchez qui avait enflammé l'aéroport de Marignane. Cette fois, la recrue est peut-être moins connue, mais elle est très prometteuse. Vitinha, 22 ans, révélation du championnat portugais, plus de 15 buts dans la première moitié de saison. Des clubs anglais le voulaient, mais il a choisi l'OM. Les supporters olympiens en sont ravis.
On peut enfin dire, grâce à Pablo et au travail fait par cet homme, que chaque année, on peut prétendre à jouer l'Europe.
Il a fait le bon choix et c'est ce que c'est que de jouer dans un grand stade avec des vrais supporters, contrairement à d'autres attaquants de Ligue 1, qu'on choisit de jouer pour un petit club sur la côte, pas très loin de nous.
Au passage, le petit tacle était pour Terem Moffi, l'ancien Lorientais, qui a choisi Nice plutôt que l'OM. Reste que le mercato marseillais plaît beaucoup à Damien, un autre supporter olympien qui se met presque à rêver.
Il y a une vraie ambition. La Ligue 1, on peut la gagner, on verra, mais je pense que c'est possible.
Et pour mettre la pression sur Lens et le PSG, l'OM doit gagner à Nantes ce soir. Marseille, c'est vrai, a retrouvé la foi grâce au recrutement ambitieux du président Pablo Longoria.
Marseille à Nantes, hein, ce sera à 19h sur RMC pour la 21e journée de Ligue 1. Il y aura 5 matchs à 19h, 5 autres à 21h. Évidemment sur RMC, Paris sera à Montpellier. Fin de mercato chaotique pour le PSG qui voulait recruter l'attaquant marocain de Chelsea, Hakim Ziyech, mais le transfert n'a pas été homologué en temps et en heure. Le PSG va déposer un recours.
Et puis le quintet, c'est à Pau.
Oui, à Pau, 13h50, RMC Découverte. Le 9, hélas, les favoris les pronostics de la Dream Team ce matin. Le 9 en favori, Gaz Gaz. L'As en outsider, et qui the best?
C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 7h39 sur RMC, il se moque de moi. Charles, je vous en prie.
C'est à Pau le quintet?
C'est à Pau le quintet, oui.
Le quintet.
C'était donc le quintet et le journal de Quentin Vinet. Il est 7h39 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Vous êtes bien sur RMC, il est 7h42.
L'invité du jour.
Deux invités du jour dans le studio d'RMC. Benjamin Amar, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre de la direction nationale de la CGT et Anne-Charlène Mézina, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue et constitutionnaliste. 1,2 million de personnes dans la rue, d'après le ministère de l'Intérieur. 2,8 d'après la CGT. Mais quoi qu'il arrive, quel que soit le constat, il y avait plus de monde hier qu'il n'y en avait lors de la première journée de mobilisation. Plus de monde donc. Deux journées prévues la semaine prochaine. Et un gouvernement qui dit être de plus en plus ferme. Est-ce qu'ils jouent l'usure? Est-ce qu'ils espèrent un essoufflement, Benjamin Amar?
Bon, on a des gens qui sont complètement, je pense, déconnectés, mais en réalité, c'est une posture. Quand on est rigide ainsi, on est en réalité fébrile. Enfin, je veux dire, on rappelle pas, bien évidemment, la référence à Alain Juppé tellement elle est évidente, mais cette manière de dire je ne bouge pas, alors vous avez la mobilisation la plus forte depuis très très longtemps. Qu'elle s'enracine. Faut regarder les chiffres de près, hein, au-delà du prisme parisien.
Toutes les villes de France, hein, c'est ça qui est effectivement intéressant, et c'est la spécificité déjà lors de la première mobilisation.
Mais là encore plus. C'est-à-dire qu'il y a des villes. On a des exemples. Moi, je les citais. Que ce soit à Lorient, à Montauban, à Châteauroux, vous aviez 14 000 manifestants. C'est une ville de 40 000 habitants. C'est-à-dire, vous avez un habitant sur trois qui va manifester. Donc, avec des profils de manifestants qu'on voit rarement. Donc, il y a un effet sédimentation. Il y a une colère qu'on n'a pas vue depuis très longtemps.
Sédimentation de différentes colères. Et là, je me tourne vers vous, Anne-Charlène Bézina. Quelle sortie possible du point de vue politique? C'est-à-dire qu'on a quand même l'impression que le bras de fer s'installe, avec en effet de plus en plus de manifestants qui n'ont pas l'air, si j'en crois le ton et l'énergie encore de Benjamin Hamar ce matin, qui n'ont pas l'air de se décourager. Et de l'autre côté, un gouvernement qui, plus il y a de monde dans la rue, plus il est ferme.
Bah c'est la grande question. Et alors il y a la première stratégie dont vous parliez, qui est l'idée de laisser les choses s'user tranquillement, en jouant aussi la posture finalement de la fermeté politique, puisque c'est vrai qu'on peut se demander si le gouvernement et les députés sur le terrain ne savaient pas ces événements
pourquoi
à l'avance.
Pourquoi avoir choisi ce moment ? Est-ce que c'est pas un mauvais timing ?
Alors, c'est aussi une question politique intéressante, c'est qu'on considère que la première année est forcément l'année des réformes les plus dures. Donc, je pense qu'il y a forcément un effet capitalisation qui a été celui de ce mandat, en se disant, bon, voilà, l'élection est proche, il faut maintenant y aller. Il y a aussi toute la perspective d'une majorité qui va se dissoudre petit à petit avec les velléités de 2027.
Ce qui est déjà le cas quand même. Alors, vous qui êtes constitutionnaliste, quand on regarde du côté du fonctionnement des institutions, il n'y a quand même pas de majorité claire. On sent que les députés de droite sont pas absolument sûr de voter c'est cette vrai. Réforme, ça va se finir en 49-3 cette histoire.
Alors c'est la grande question, c'est-à-dire qu'on a déjà un 47-1, donc on a déjà 20 jours à peine de discussion. Donc
47-1, attention,
voilà.
On le dit, c'est que c'est une forme express, c'est-à-dire que les débats seront raccourcis à l'Assemblée nationale.
Oui, mais alors encore une fois, c'est la forme normale. Ça, il faut pas, on le dégaine pas. C'est parce qu'on est dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale qu'on en est là, d'accord. Mais c'est vrai que ces 20 jours vont pas laisser beaucoup de temps finalement à l'opposition pour s'exprimer, à la majorité pour aller trouver des accords. Donc c'est vrai qu'on a tendance à se dire que si le vote n'est pas cristallisé dans les 19 prochains jours, eh bien, il y a un risque de passage en force. Et ce risque de passage en force, doublé du risque de passage en force par rapport à l'opinion, il est un petit peu dangereux, dans le sens où, si vous voulez, le 49-3, maintenant, il se joue dans la rue. C'est pas tellement une arme parlementaire. C'est aussi quelque chose qui fait sentir aux Français qu'on a le sentiment que la majorité n'est pas sûre d'elle et que, en plus, il y a forcément un manque d'écoute.
Voilà. Avec quand même cette question, vous me dites, Benjamin Hamar, non, mais on n'est plus déterminé que jamais. Il y a quand même une question dessous, et on l'entendait pour plusieurs témoignages depuis ce matin, de gens qui disent, bon bah au fond, tant mieux qu'il y ait aussi une manifestation le samedi, parce que nous n'aurions pas eu les moyens de faire grève davantage.
Mais attendez, d'abord nous, Madame Borne disait qu'elle faisait des ateliers créatifs pour expliquer la réforme. Nous aussi, on fait des ateliers créatifs pour la mobilisation. La preuve, il y aura une mobilisation le week-end. Mais après, je veux dire, il va y avoir de la chair entre les mobilisations. C'est-à-dire qu'il va y avoir ces grandes mobilisations-là, et puis après, il y a des secteurs.
C'est quoi de la chair entre les mobilisations?
C'est des mouvements de grève, des mouvements reconductibles. Il y a eu des marches au flambeau, par exemple, un peu dans toute la France. On en a organisé une dans le Val-de-Marne. Il va y avoir aussi des secteurs qui vont rentrer dans des luttes plus durables et plus reconductibles. Il va y avoir un peu de tout.
Vous pensez, par exemple, à la raffinerie?
Dans un certain nombre de secteurs particulièrement mobilisés, syndiqués, organisés. Mais, si certains, on sait bien que dans un cynisme absolu, Monsieur Macron et son gouvernement tablent sur le niveau de pouvoir d'achat, les problématiques de pouvoir d'achat, pour dire, écoutez, les Français ne pourront pas assumer un mouvement long, c'est, je pense, finalement, mal connaître l'histoire sociale. Il y a des époques où les gens ont gagné encore moins et où on a eu des mouvements extrêmement puissants. Pourquoi ? Parce que quand on a un sentiment d'injustice sociale profonde, comme c'est le cas aujourd'hui, eh bien évidemment que vous avez une convergence. Moi, je rencontre des gens qui me disent, écoute-moi bien, je mangerai des patates s'il le faut, je serai à découvert, je partirai pas en vacances, mais cette réforme ne passera pas. Voilà. Mais comme on a des apprentis sorciers assis sur des barils de poudre qui jouent avec la colère sociale de manière finalement bien
laxiste. Vous parliez à l'instant, Benjamin Hamar, de toutes ces villes de France où les manifestations avaient été de très grande ampleur. Partons tout de suite à Nevers, retrouver Stéphanie qui nous a appelé au 3216. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Apolline.
Stéphanie, à Nevers hier, il y avait 5000 manifestants, dont vous.
Oui. Oui, mes collègues et moi.
Vous faites quoi dans la vie, Stéphanie ?
Alors moi, je suis fonctionnaire d'État et oui. Je suis détachée dans un établissement public, donc on est mélangé public et privé.
Et hein, vous étiez hier dans les manifestations, mais pour autant, vous n'étiez pas officiellement en grève. Est-ce que c'est bien ça ?
Oui, c'est tout à fait ça. En fait, avec mes collègues, on était grévistes le 19, et puis deux jours, il faut l'avouer, hein, deux jours de grève sur une feuille de salaire, c'est lourd. Donc, on s'est toutes mises en congé hier après-midi.
D'accord.
Et nous sommes allés manifester et on refera pareil la semaine prochaine.
Et vous ferez la même chose, c'est-à-dire vous ne vous mettrez pas en grève le mardi, mais vous trouverez un moyen d'aller manifester.
Oui.
Et pareil le samedi?
Pareil le samedi. On ira, alors on ne travaille pas le samedi, hein, donc on ira sur notre jour de repos le samedi.
Ça vous arrange ça, ce système-là, quand on pense à la suite? Et d'ailleurs, je ne trahis personne en le disant, hein, c'était aussi deux stratégies, celle de la CFDT, celle de la CGT. La CGT, vous êtes plutôt du côté de la grève en semaine. La CFDT proposait davantage de mouvements le week-end, précisément. Et finalement, il y aura eu les deux. Hein.
Mais une intersyndicale, c'est justement, on discute et on essaie de trouver un chemin commun, c'est le cas.
Un chemin commun. Je voudrais finir avec vous aussi, Anne-Charlène Bézina. L'unité qu'il y a du côté du front syndical, elle est un peu brisée aujourd'hui du côté politique. Est-ce que pour Emmanuel Macron, il n'y a pas la possibilité aussi, certains l'évoquent, de ressortir une loi qui était déjà votée, en fait, la loi par point, la réforme par point, elle est dans un tiroir quelque part, elle a été adoptée par l'Assemblée nationale, il suffirait en fait de la ressortir au Sénat. Techniquement, constitutionnellement, c'est jouable ?
Non, c'est quand même très délicat parce que vous ne pouvez pas passer au Sénat directement sans passer par l'Assemblée nationale. Alors oui, on peut envisager de passer au Sénat d'abord, mais ça passera forcément à l'Assemblée nationale.
Mais elle a été votée par l'Assemblée nationale. Hein.
Oui, je pense franchement pas qu'on puisse retourner au calende d'une réforme, en plus qui n'est pas forcément beaucoup plus consensuelle, parce que la question c'est celle-là. C'est
qu'est-ce
qu'on peut trouver, voilà. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme accord? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme accord?
Que le gouvernement fasse ce bricolage politique et on va bien rigoler, je vous le dis franchement. Alors en termes de légitimité, la légitimité du gouvernement qui est déjà bien étiolé, elle va fondre comme neige au soleil. Qui nous ressorte la réforme de 2020, de 2019,
On pourrait presque tout conclure et tout cristalliser là-dessus. C'est la question de la légitimité. On a eu dès la première semaine un président de la République qui a campé sur le fait qu'il était légitime parce qu'il était élu, notamment sur ce programme. C'est une vérité constitutionnelle et politique. On est élu sur un programme qu'on met en œuvre. Mais il y a la question de la contre-légitimité que ce mouvement est aujourd'hui en train de cristalliser. Pourquoi ? Parce que on se rend bien compte que l'opinion et la popularité a plutôt basculé du côté de la contestation aujourd'hui que du côté de la réforme. Et on le voit notamment dans le lexique du gouvernement, c'est-à-dire que on ne défend plus vraiment la réforme. Maintenant, on décrédibilise les oppositions et on essaye
de... Et ils ne parlent plus d'ailleurs de réforme juste.
Voilà, donc...
C'était le vocabulaire.
Je pense qu'il y a aussi une erreur peut-être dans ce champ lexical-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose de plus tendancieux en droit, en légitimité politique que le terme de justice sociale, fiscale, parce que chacun en a une conception différente et parce que c'est très difficile.
On a bien vu que chacun mettait derrière le mot juste ce qu'il voulait entendre. Merci à tous les deux. Benjamin Hamard, membre de la direction de la CGT, Anne-Charlène Bézina, politologue et constitutionnaliste. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. On poursuit bien sûr avec vous tous au 32-16 sur la question de cette mobilisation. Et puis du côté politique, mon invité ce sera François Bayrou à 8h30.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Est-ce que les députés, les sénateurs, le président de la République ont un régime spécial de retraite? Vous avez des questions? Nicolas Poincaré a les réponses. Expliquez-nous, c'est dans un instant sur RMC.
Apolline Matin.
Le bonus RMC.
Le bonus RMC, le bonus de Charles. Charles, on en sait un peu plus sur le projet de biopic qui va retracer la vie de Michael Jackson.
Michael, c'est le titre pour l'instant provisoire de ce projet de film qui sera notamment supervisé par Graham King, l'homme qui avait produit Bohemian Rhapsody, le film sur le groupe Queen. Mais surtout, on sait qui incarnera Michael Jackson à l'écran. Après de longs mois de casting, de négociations, c'est finalement Jafar Jackson qui a été choisi. Jafar Jackson, 26 ans, qui ressemble très pour trait à Michael période Billie Jean. Faut dire qu'il a de quoi. Jafar n'est autre que le neveu de Michael Jackson. Et oui, Jafar Jackson est le fils de Jermaine Jackson, frère de Michael. Ça va, vous suivez? Eh bien, Jafar va donc incarner son oncle sur grand écran avec l'accord et le soutien de toute la famille Jackson. Le tournage doit débuter dans quelques semaines pour un film dont on nous dit qu'il n'éludera aucune zone d'ombre de la vie de Michael Jackson.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h55 et c'est l'heure de Nicolas Poincaré.
Expliquez-nous,
Nicolas, la réforme des retraites prévoit de supprimer certains régimes spéciaux, mais pas tous, et notamment pas ceux des parlementaires. Est-ce que c'est vrai que les députés et les sénateurs vont continuer à bénéficier des retraites avantageuses?
Alors, les sénateurs, oui. Les députés, non.
Les parlementaires des deux chambres ont un régime spécial qui verse une pension aux élus retraités, mais régime autonome ne veut pas dire forcément régime privilégié. Les députés, en 2018, ont aligné leur statut sur celui de la fonction publique. Ça veut dire qu'ils peuvent toucher une retraite à partir de 62 ans aujourd'hui et certainement 64 ans demain. Cette retraite est proportionnelle au temps passé à l'Assemblée. Un député qui n'a fait qu'un seul mandat de 5 ans touchera par exemple une pension de 684 € par mois. C'est aussi ce que toucherait un cadre qui n'aurait travaillé que 5 ans dans la fonction publique et le reste de sa carrière dans le privé.
Les avantages des députés ont régulièrement été rognés.
Oui, il n'y a pas si longtemps, un député battu pouvait toucher une retraite dès 50 ans et même dès 55 ans à taux plein. Les députés pouvaient jusqu'en 2012 décider de cotiser double. Leurs indemnités étaient rognées, mais en 5 ans seulement, ils se garantissaient une retraite de 1 200 € par mois. Les pensions de reversion qu'ils laissent à leurs conjoints après leur mort étaient bien plus intéressantes que celles du commun des mortels, c'est le cas de le dire. Désormais, tout cela est fini. Il n'y a plus de retraite avant l'âge, plus de cotisation double, plus de pensions de reversion augmentées. Bref, la retraite des députés est rentrée dans le droit commun. Et elle est en moyenne d'ailleurs de 2 700 € par mois.
Les sénateurs, en revanche, gardent un système très avantageux.
Et oui, eux touchent à la retraite beaucoup plus que les députés. En moyenne, 3 800 € net. Et un sénateur qui n'a fait qu'un seul mandat de 6 ans touchera une retraite de 2 190 € net. C'est donc beaucoup plus que les 600 € d'un député. Les sénateurs n'envisagent pas de revenir sur ce régime de privilégié. Un député a osé le suggérer il y a quelques jours, mais il s'est fait pourrir par les sénateurs. Les élus du Palais du Luxembourg expliquent que leur régime autonome est à l'équilibre, que le Sénat finance seul ses retraites sans l'aide de l'État. Donc pour eux, il n'y a pas de raison de les remettre en cause. Ils oublient juste une chose, ils oublient de dire que ce régime est financé pour moitié par une cagnotte qui est placée principalement dans l'immobilier. Et cette cagnotte a bien sûr été financée par les impôts des Français. La retraite dorée des sénateurs est donc bien payée en partie avec de l'argent public.
Et du côté du président de la République ?
Alors là, on est dans un régime très très spécial. Depuis 1955, les anciens présidents, à partir du jour où ils quittent l'Élysée, reçoivent une dotation de 6 000 € par mois jusqu'à la fin de leur vie. La somme a été calculée pour correspondre à peu près au salaire d'un conseiller d'État. Et les anciens présidents touchent cette dotation quel que soit leur âge. En l'occurrence, Emmanuel Macron aura donc le droit à cette retraite à 49 ans, sauf qu'en l'occurrence, il a déjà fait savoir qu'il comptait renoncer à cette dotation.
Et donc, président de la République, c'est le seul métier où l'on pourrait gagner beaucoup plus à la retraite qu'en activité. Les explications de Nicolas Poincaré, il est 7h58. On se retrouve dans un instant pour la météo et le journal.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.